Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Qu'est-ce que tu dis là? Il y a eu la preuve, les analyses. Elle lui dit, elles ne sont pas faillibles. Faillables à 100%, même ton ADN. Et puis, ce n'est pas notre fils. Son mari lui dit, il a été conçu avec les éléments de ton fils. Donc, c'est ton fils. Pas pour moi. Son mari lui dit, pour moi non plus. Mais elle est dans ses droits. Il y a eu un jugement et d'expertise. Elle a gagné. Elle lui dit, elle ne mettra jamais les pieds ici. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ici? Il dit, nous prendre nos biens. Il lui dit, elle n'en a pas besoin. Puisqu'un autre meurt, ils seront à eux, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne veux pas. Elle continue à marcher et lui dit, ah, si nous avions eu un deuxième enfant. Il lui dit, n'en vaut pas. Elle lui dit, ah, si l'on pouvait. Il lui dit, mais on ne pourra jamais. Elle lui dit, et si on demandait ensemble à la clinique? Il lui dit, surtout pas, je ne veux pas de monstre ici. La nouvelle vie, les retrouvailles, la nouveauté, Frédéric s'ennuie. Être enfermé les jours entiers avec sa femme lorsqu'on a 14 ans, ce n'est pas facile. Les jours sont longs, les nuits, on peut se débrouiller en jouant au lit, mais la journée, passer à se regarder dans le blanc des yeux, à se dire je t'aime à tout moment. Bien sûr, ne lui dis rien et cache sa mélancolie. mais elle, elle sent qu'il s'ennuie. Jouer aux dames toute la journée, manger, dire des bêtises, ça ne suffit pas. C'est difficile de vivre avec un mari qui est trop jeune. Faut constamment l'amuser. À force de faire du sexe, on peut réussir à en être blasé. Donc elle se dit qu'il faut faire vite avant qu'il n'aille chercher ailleurs. Et mieux, il peut trouver bien mieux et ne plus revenir. Elle réfléchit et se dit qu'il vaudrait peut-être mieux, c'est qu'ils aillent vivre dans une grande ville. C'est mieux pour se distraire. Ils pourraient moins s'ennuyer, ils pourraient aller au spectacle. Paris, ce n'est plus bon pour elle, après ce qu'on a dit sur elle. Et puis, elle en veut aux gens du coin. Aller à l'étranger, oui, mais la langue et puis le dépaysement peut être trop fort pour Frédéric. Il peut se sentir étranger. Alors, en France, mais pas à Paris. Elle se demande quelle est la ville qui pourrait apporter du changement et puis des avantages comme à Paris. Elle réfléchit et se dit, pas Marseille, c'est une ville qui ressemble de moins en moins à une ville française. Lyon, oui, pourquoi pas. Surtout que Franblanc la rénove. Pourquoi pas, oui. Il y a des écoles, universités, des spectacles. C'est la ville des Pontiats, toi, Dieppe. Et tout, pourquoi pas. Elle demande à Frédéric, ça te dirait de vivre à Lyon? Il la regarde surpris. Lyon, pourquoi? Elle lui dit, parce que c'est une grande ville et qu'il y a beaucoup de choses. Alors qu'est-ce que tu en dis? Il lui dit, je ne sais pas, je ne connais pas. Les Lyonnais n'aiment pas les Parisiens et c'est pauvre là-bas. Elle lui dit, nous allons y aller voir et puis si ça ne nous plaît pas, il lui demande. Y allons quand? Elle lui dit, après-demain si tu veux. De toute façon, à Paris, nous ne faisons rien. Nous n'avons rien à faire. La voiture pour Lyon. Ils sont partis tôt le matin pour arriver en fin de journée. Le ciel est bleu, il y a peu de circulation. s'arrêter à mi-chemin pour déjeuner. Le trajet est long parce que les routiers et les routes sont en mauvais état, que les travaux ne se terminent pas, que des camions bloquent la route à certains endroits en signe de grève, qu'il faut les contourner. Ils ont peu parlé parce que Frédéric a beaucoup dormi. La voiture le fait dormir. Ils sont arrivés à Lyon la nuit. La ville ne donne pas une bonne impression. Maisons en ruine, chaussées défoncées, SDF, poubelles qui débordent. Peu de lumière, voitures défoncées ou brûlé, magasin fermé, peu de grandes rues. Frédéric se demande, c'est ici que tu veux me faire vivre? Elle lui dit, te fais pas de soucis. Et puis Paris c'est la même chose, à part certains quartiers, dont le nôtre. Le Rhône et la Saône déchargent des arbres morts, des voitures, des animaux de toutes sortes. C'est un décor de fin du monde, Lyon. Ils arrivent à trouver une petite rue calme qui monte sur les hauteurs de Fourvière. Là, il y a en face un pensionnat, un hôtel sur les pentes, 4 étoiles. Magnifique hôtel qui domine la ville. On voit toute la ville. C'est très beau. Et l'hôtel a une belle architecture, cossue, mais bien. Rue calme. Jean lui dit, tu vois, on a trouvé quelque chose. Elle prend la petite route privée qui mène à l'hôtel et va arrêter sa voiture devant l'entrée. Ils entrent dans l'hôtel. L'hôtel est meublé Renaissance Louis XIII. Pierre apparente au mur, plafond à la française, vieux tableau. Le hall est un grand hall. Elle va à la colle. Frédéric la suit. Un homme habillé en concierge, costume, veste verte, bouton, épaulette dorée, pantalon vert avec lisière dorée. Madame, elle lui dit, bonjour monsieur, c'est pour une chambre s'il vous plaît, pour 2 personnes. La deuxième, c'est ce jeune homme, le concierge lui demande. Vous voulez la même chambre pour vous? Oui, c'est un peu compliqué à expliquer, mais j'ai des papiers prouvant que c'est mon mari. » Elle lui montre sa carte et celle de son mari. Il met la carte sur l'écran, demande à Jean, « Mettez votre pouce, s'il vous plaît. » Elle le met sur l'écran qui est inscrit exact. Il rentre sa carte et dit, « Où je nomme maintenant ?» Frédéric met son pouce sur l'écran qui marque exact. Il rend la carte à Frédéric. Le concierge demande, « Vous voulez une chambre pour combien de temps ?» Elle lui dit, « Une semaine, peut-être plus. »« Bien, je vous donne la chambre 21. Vous aurez la vue sur la ville. » Il sonne. Vient à eux un jeune groupe de 15 ans, habillé de vert, comme le concierge. Le maître d'hôtel lui donne les clés et lui dit, « Chambre 21. » Le groom prend les valises et dit, « Vous voulez bien me suivre ?» Il les mène vers l'ascenseur. Pour aller au deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, ils suivent un couloir où se trouvent les murs sont des pierres à nu et des carreaux à terre. Il va ouvrir la chambre 21. Ils entrent. La chambre est très grande, avec un coin salon meublé Louis XIII. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur un balcon qui plonge sur Lyon. Le groupe demande, « Cela vous plaît-il ? » Elle lui dit, « Ce sera parfait, merci. Posez les bagages à terre, nous en occuperons. » Le groupe lui montre la salle de bain. Voilà, marbre blanc. Et le groom les laisse. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Jean dit, eh bien, rangeons nos affaires. Une fois qu'ils aient rangé leurs affaires, Frédéric lui demande, qu'allons-nous faire? Elle lui dit, nous allons essayer de voir si nous pouvons vivre dans cette ville. Frédéric lui dit, elle m'a bien l'air délabrée. Ils ont commandé leur dîner dans leur chambre. Puis comme ils étaient fatigués, se sont couchés. Depuis leur retrouvaille, ils couchent ensemble. Les premiers temps, ça a été un grand plaisir pour Frédéric de retrouver le corps de Jeanne. Mais maintenant, il commence à se lancer, ou plutôt à des difficultés. Ah ! À désirer. Il est vrai qu'il est très jeune. Et qu'il a besoin d'un peu d'inconscience. Comme les enfants, ils ont besoin de jouer. Avoir des arrêts entre les choses sérieuses. Le lendemain, ils se sont réveillés tard et ont décidé de visiter la ville. La journée, la rue, paraît moins lugubre que la nuit. La ville semble mieux. On le dirait une ville après un bombardement. Des ponts écroulés, la place Delcourt transformée en bidonville, plein de cabanes en carton, fagots plastiques. Il y a des jeunes en loque qui font de la musique en tapant sur des bidons d'essence vides. Des détritus de partout, de vieilles voitures défoncées, des fils d'étendage pour étendre des loques, ça crie, ça rit. Le sol est devenu de la boue, plein de rigoles. Fuite faite de pisse, de lessive, d'alimentation. Sur les toits des baraques, il y a des antennes de télévision et même des paraboles. On entend, en passant, la télévision. En plus, il y a des disputes. On se bat beaucoup, on boit sec. La statue Louis XIV est pleine de graffitis peints en rouge. Le cheval a perdu sa tête, on a mis à place une poubelle renversée. On a fait même pendre du linge sur la statue. Les immeubles qui entourent la place sont en ruine. Il n'y a plus de circulation. De la place, l'on voit la basilique à moitié en ruine. Il manque le côté gauche. On dirait un château en ruine. La rue de la République est devenue tout son long un immense marché aux puces de voleurs. Il y a des saltimbanques qui chantent, des lanceurs de feu, des jongleurs. Les magasins sont fermés. Il n'y a pas de boutique, on met les objets à terre et on s'assoit en tailleur. La plupart des immeubles sont en mauvais état. Ils ont des trous, des traces d'incendie, des trous d'artillerie. Certains sont complètement en ruine. Du cinéma, le pâté, il ne reste qu'un tas de ferraille, des charpentes métalliques et un bout de mur qui est resté debout où se trouvent des fixations de fauteuils. Un soir, une bande de jeunes, en regardant un film, ont mis le feu. Ils se sont battus. L'opéra de Lyon ne reste plus que la carcasse métallique et des pans de mur. Le sol est plein de canettes de bière, coca, carton, papier, McDo. Les gens y viennent pour discuter et fumer. Ils aiment aussi se monter sur les carcasses de ferraille qui ont la charpente de l'opéra. Il semble un peu à un échafaudage. Ils aiment y monter et passer la nuit en l'eau, en haut, en équilibre, sur les barres. Une nuit, un jeune est tombé. Il a peut-être été poussé, ou s'est suicidé, ou tout simplement, il a perdu l'équilibre tout seul. Le tête de ville, il ne reste plus que le rez-de-chaussée. Le reste a été brûlé par des grévistes, des employés de la ville qui demandaient une augmentation.
Il n'y a pas un bruit, le jour ou la nuit, et l'on tombe dans l'ennui. Enfin, que peut faire le célibataire lorsqu'il vit célibataire? Plonger au passé, lire ou se reposer, on en a vite assez. C'est pas comme ça quand on aime.
La place hétéro est devenue le coin des jeunes. Ils habitent à la nudiste et se purifient dans l'eau de la fontaine. Ils se baignent nus dans la fontaine et boivent l'eau. On a recouvert la statue équestre d'un tissu jaune vif. On y joue de la musique indienne. On y prie, on y mange, on y fait l'amour. Les hommes, les jeunes sont sales, sentent mauvais. Les garçons ont des cheveux longs et barbes. Ils sont très maigres. Les filles, en tailleur, font téter leur sein maigre à des bébés squelettiques. Pour ce qui est des pentes de la Croix-Rousse, peut dire qu'elles ont moins souffert que le reste de la ville, à part certaines ruines. Peut-être parce que ceux qui faisaient le bazar mettaient le feu et vivaient sur les bancs de la Croix-Rousse. Et qu'il ne voulait pas, qui voulait préserver leurs environnements. On leur a peut-être donné l'ordre de le faire pour emmerder, comme ils disent, la municipalité. Malgré tout, les pentes ont bien changé. Avec les squatteurs, les drogués, les putes, les marginaux, de toutes sortes et de toute origine. Elle ressemble à une ville d'Afrique. Comme cela, à Lyon, on fait le tour du monde de la pauvreté. La place de Villecour, l'Amérique du Sud, la place des Terreaux, l'Inde, les pentes de la Croix-Rousse, l'Afrique, le Pérou, New York, etc., etc. Le centre commercial de la Part-Dieu est devenu le refuge de tous les marginaux qui débarquent.
Ici, disent qu'ils descendaient Dieu.
Vous connaissez son nom ?
Oui, qui débarquaient avant dans un port. Mais là, c'est pas. C'est par car, métro, train, faux pieds garés, ils débarquent comme on débarquait avant dans le Nouveau Monde, en 1800, avec ses affaires, dans un sac en plastique, dans le centre. Ils vont chercher un endroit tranquille. Pour y mettre ses affaires et trafiquer des choses.
Il est l'homme le plus puissant.
Les gens qui sont dans le centre n'en sortent pas. Ils y rentrent, ils y restent, ils sortent une fois morts. La plupart des magasins sont fermés. Le moindre coin coûte cher. Il faut se battre pour avoir une place et la garder. C'est la loi de la jungle. Le centre, malgré qu'il ne soit plus un centre commercial, on continue à le chauffer et avoir de l'électricité. Pour raison humanitaire, on ne peut pas laisser les gens à la rue. Donc je ne peux pas tout vous dire ce que c'est qu'une cour des miracles. On y trouve de tout. On y cherche des coins pour y mettre des affaires. Il y en a partout. Il y a des gens qui sont débraillés, qui font des trafics de tout et de n'importe quoi. Ça va de la drogue, à l'alcool, prostitution, fringues et un peu de nourriture. Une vie parallèle s'est installée ici, hors la loi. Immense cour des miracles. La fontaine du centre commercial sert pour prendre de l'eau, pour se laver, boire, faire le linge. On fait du feu, amène le sol, pour se chauffer ou se nourrir. Ça sent mauvais, c'est sale. Voilà en gros Lyon, sans compter les églises, occupé par des illuminés de toutes sortes, les SDF, etc. Donc voici Lyon que voient John et Frédéric. Les bords du Rhône, de la Saône, qui sont pleins de SDF, avec des bagarres. Des linges qui pend, des baraques, des cris, des rires, de la musique. Des péniches à quai sont squattées. Frédéric dit, tu crois qu'on peut vivre dans tout ça? Et lui dit, il doit bien y avoir des quartiers plus tranquille que comme à Paris. C'est la même chose. On ne se rendait pas compte, mais nous étions... Parce que nous habitions dans un endroit calme, un bel hôtel. Il ne faut pas désespérer. Il y a beaucoup d'aide. Il lui dit. Oui. Mais dans quel état elle est, cette ville? Après avoir passé la journée à traîner dans la ville, en voiture, à pied, se le retourner à l'hôtel pour se reposer et dîner. Une fois dans leur chambre, elle lui dit « Si tu veux, on peut dîner en ville. » Il lui demande « Où ?» Toi, tu as du courage avec ce que l'on a vu. Elle lui dit « Nous demanderons au concierge, on va bien avoir un coin tranquille. » Le concierge leur a donné une adresse d'un restaurant qui se trouve dans le 6e arrondissement, Place Yotay. Il a été épargné, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, ils ont dû l'oublier. Il s'appelle La Tablée. À 20h30, ils entrent dans le restaurant. Le restaurant est meublé et décoré en campagnard. Un campagnard avec de gros meubles rustiques en sapin. Il y a la frisette en bois sur les murs avec des tableaux de maître inconnu. Il y a quelques personnes à table. Le maître d'hôtel, un homme grand, mince, chemise blanche et pantalon noir, il a les cheveux et une moustache noire. Il va vers eux. Vous désirez? Elle lui dit, une table pour deux, s'il vous plaît. Si vous voulez bien me suivre. Il les mène dans un enfilade de sol, leur montre une table pour deux couverts. Ils s'assoient l'un en face de l'autre et leur demande « Vous désirez un apéritif ?» Elle lui dit « Non merci, nous avons très faim et nous avons hâte c'est de goûter à la cuisine lyonnaise. » Il lui dit « La cuisine lyonnaise ?» Sont plus que c'est. Entre les cuisines exotiques, les McDo, les restos rapides. Mais je crois que nous faisons encore un peu de la cuisine lyonnaise ici. Passe devant eux, Monsieur Janju. Frédéric dit, Monsieur Janju. Monsieur Janju se retourne. Et il reconnaît Frédéric. Frédéric, mais que faites-vous ici? Frédéric lui dit, je suis avec Jean. Monsieur Janju, salut Jean. Madame, monsieur, Frédéric dit, c'est monsieur Janju, tu sais la personne qui m'a aidé et qui m'a fait connaître les francs blancs. Il fait, ah oui, nous n'avons pas été présentés, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Monsieur Janju lui dit, ce n'est rien, j'ai fait la connaissance de votre mari dans le train, il m'a expliqué vos problèmes. Et lui demande, vous êtes venu dîner? Il lui dit, oui, ce soir, j'avais envie de manger dehors. Elle lui dit, eh bien, venez manger avec nous. et fait signe au maître d'hôtel qui le fait vue de la tête. Et il les quitte pour aller chercher un couvert supplémentaire. Demi-heure plus tard, ils sont en train de dîner. Jean-Jules demande « Que faites-vous à Lyon ?» Elle lui dit « À Paris, je ne peux plus vivre. Avec ce qui s'est passé, je ne supporte plus les gens de mon quartier et j'ai mis à la porte tous mes domestiques. Moi, j'ai pensé que peut-être je pourrais vivre à Lyon. » Frédéric lui dit « Mais la ville paraît peu accueillante. » Puis Jean-Jules lui dit « Elle est devenue une Babylone moderne, une Babylone sans foi ni loi, pleine de sorcellerie, de médecine parallèle, de choses peu reluisantes. » Jean lui demande « Vous croyez que vous avez trouvé quelque chose ?» Il lui dit « Il y a encore des quartiers tranquilles. » Tel le mien. Il lui demande, vous habitez où? Boulevard des Belges, Ancre Garibaldi, la maison en pierre, visible beige, à gauche de l'entrée du parc de la Tête d'Or. Il lui demande, y a quelque chose à louer dans le coin? Je ne crois pas, mais si vous permettez, je vais me renseigner. Vous logez où? Il lui donne son adresse et lui demande, et pour une bonne école pour mon mari? Il lui dit, à Lyon, il n'y a que le lycée du parc qui est correct. Puis il discute avec M. Delangy, qui leur donne des adresses pour faire des achats et des lieux de distraction tels que les concerts. Après le repas, ils se sont quittés. Deux jours plus tard, Jean et Frédéric sont dans leur chambre, le téléphone sonne. Jean décroche.
Oui ?
Bonjour, je suis Monsieur de Jean-Ju. Je crois que je vous ai trouvé une maison. Mais est-ce que ça vous va une maison ?
Oui, bien sûr.
Bien, je vais vous prendre cet après-midi à 15h. Cela vous va-t-il?
Oui, merci.
Dans l'après-midi, Monsieur de Jean-Jou leur a montré une maison qui se trouve à Charbonnières, dans une rue tranquille. La rue est étroite, elle a des arbres et elle n'a que des petites maisons fin 19e. La maison qu'il leur montre est dans un parc, entourée d'un mur.
un mur haut. Le portail est en fer forgé. Derrière ce mur se trouve un parc avec des arbres centenaires. Un chemin mène à la maison de style Napoléon III. On arrive par des marches sur la terrasse, seul en pierre et rampe. On entre par une double porte. La maison a deux étages. Meublé et décor 19e, plutôt fin 19e. Par l'entrée, avec escalier qui donne au premier, salon, bureau, bibliothèque, et au deuxième, les chambres, avec salle de bain. Il y a 5 chambres. Dans les combles se trouvent les chambres des domestiques. Le service se trouve au rez-de-chaussée, la salle à manger aussi. Tout est bien conservé. Il y a de la poussière et des toiles d'araignée, autrement ça peut aller. Il visite tout ça. Monsieur Jean-Jus demande, comment trouvez-vous cette maison? Elle est formidable. Eh, dit, j'ai un ami qui tient une régie, Sébastien Delors. J'en ai parlé, j'ai parlé de vous. Et la vie dit qu'il avait cette occasion. Elle lui demande, si votre coût est très cher, il lui dit, oui, assez, mais si vous vendez vos biens de Paris, vous pourrez l'acheter. Elle lui dit, je vais réfléchir, le quartier semble tranquille, mais comment fera Frédéric pour aller à ses cours? Il lui dit, j'irai en scooter, les jeunes aiment bien ça. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.